coq chante et le jour paraît, tout se debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Cette semaine, comme promis, nous allons voir ensemble la deuxième partie consacrée au drainage agricole. Plus spécifiquement, on va parler du drainage face au changement climatique. Et nous sommes toujours avec les chercheurs et les spécialistes dans le cadre du colloque organisé le 12 octobre dernier à Paris par les chambres d'agriculture, la FEID et l'ANDA Draineur de France. La semaine dernière, les scientifiques nous ont expliqué pourquoi on fait le drainage et quelles techniques on utilise pour faire le drainage agricole. Avant d'attaquer cette seconde partie, il est plus sage de rappeler ces quelques principes. Pourquoi fait-on du drainage agricole? C'est pour évacuer l'excédent d'eau dans la terre, parce que cet excédent d'eau déséquilibre le sol en empêchant l'air d'y pénétrer. Il se trouve que sans oxygène, les micro-organismes qui vivent dans le sol et qui fournissent des éléments nutritifs aux plantes à travers les racines ne peuvent pas vivre. Deuxième raison, il s'agit de contrôler la salinité du sol. Dans les pays arides ou semi-arides, c'est souvent l'irrigation. Surtout pour le maraîchage que l'on ne sait pas faire en saison pluvieuse. On voit puiser l'eau dans la mare en contrebas et l'on vient arroser les légumineuses. Ce faisant, on accumule le sel dans la terre d'année en année, ce qui fait qu'on irrigue avec une eau contenant 10 à 12 grammes de sel par litre. Or, on sait qu'à 6 grammes par litre, une eau est considérée comme impropre pour l'agriculture. Dans certains villages en Afrique, il n'est pas rare de voir un paysan prendre une poignée de terre dans son champ qu'il met dans sa bouche pour goûter. Faute de laboratoire pour étudier son sol, c'est la seule façon d'évaluer la teneur en sel. Comment on fait ce drainage agricole? Il y a plusieurs techniques. Première technique, on met des tuyaux dans le sol de sorte à conduire l'excédent d'eau de l'amont vers l'aval. Dans les zones plus humides, on peut utiliser des trains, des fossés et des réseaux de petits canaux, éventuellement associés à des pompes. Tuyaux ou trains, ces éléments sont enterrés dans le sol à une profondeur et un écartement calculés. Ce que nous venons de décrire, c'est ce qui se fait en temps normal. Or, depuis quelques années maintenant, on entend parler des changements climatiques qui viennent bouleverser les choses. Compliquons davantage la situation en disant que la qualité des sols et la topographie sont variables d'une région à une autre, d'un pays à l'autre et même d'un continent à l'autre. Nous retrouvons Luc Servant qui est membre du bureau de l'APCA, président de la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime.
On s'aperçoit effectivement de l'évolution du climat avec des épisodes secs de plus en plus longs, mais aussi des épisodes pluvieux de plus en plus intenses, ce qui fait que les sols sont gorgés d'eau beaucoup plus rapidement aujourd'hui avec ces forts épisodes.
Et immédiatement secs après.
Et ensuite des périodes de sécheresse beaucoup plus longues. Donc, quand on est dans un régime hydrique beaucoup plus équilibré, il y a beaucoup moins d'excès d'eau et beaucoup plus de pluie qui alimente de manière régulière la plante. Aujourd'hui, on est de moins en moins effectivement face à ce fonctionnement du climat. Et donc, quand on a un épisode pluvieux fort, la plante va être noyée s'il n'y a pas de drainage suffisant du sol. Et ensuite, du fait du faible enracinement, une sensibilité à la sécheresse beaucoup plus forte par la suite, alors que le drainage permet justement d'équilibrer tout ça.
Alors, on a expliqué que cette année, il y a eu des mois où il a beaucoup plu en France. Puis immédiatement après, il y a eu des mois de sécheresse. Si j'ai bien compris ce que vous venez de me dire, pendant que il y a beaucoup de pluie, le système racinaire ne va pas profondément. Et si la sécheresse vient là-dessus et perdure, et la plante souffre deux fois.
Justement, les épisodes qu'on a eus en 2018, c'est justement assez marquant en France, avec un printemps très pluvieux, un hiver et un printemps très pluvieux, ce qui a empêché les cultures d'hiver de se développer ou d'avoir en tout cas des racines qui descendent dans le sol, parce qu'il y avait beaucoup de pluie. Et ensuite, on a une sécheresse très marquée à partir du mois de juin jusqu'à aujourd'hui. Et donc, les plantes qui n'étaient pas suffisamment enracinées parce que les racines avaient noyé n'ont pas pu aller capter l'eau qui était plus en profondeur au cours d'été. Donc, pour la plante, c'est effectivement la double sanction. Un mauvais développement en hiver du fait de l'excès d'eau et un mauvais développement au printemps et en été du fait du manque d'eau.
Il y a un mot aussi qui a été prononcé, c'est la minéralisation.
C'est-à-dire que les micro-organismes qui vivent et les réactions chimiques qui ont lieu du fait de la présence d'oxygène permettent de fournir à la plante des minéraux, des minéraux azotés notamment. Les nitrates se forment à ce moment-là dans le sol et sont apportés de manière naturelle à la plante. Et donc l'agriculteur a besoin de moins apporter d'éléments venant de l'extérieur au sol, puisque le sol les livre tout seul finalement à la plante.
Ça veut dire que je dépense moins pour de la fertilisation.
Voilà, quand une plante peut aller chercher des éléments sur 1 mètre, 1,50 mètre de profondeur, elle trouve beaucoup plus à manger, puisque le garde à manger est beaucoup plus important que quand elle ne peut s'enraciner que sur 20 ou 30 cm, puisqu'en dessous il y a de l'eau et qu'elle ne peut pas y aller. Et donc la plante trouve tout ce qu'il lui faut finalement dans le sol de manière naturelle, ce qui permet derrière une production beaucoup plus forte. Ça, c'est l'effet du drainage sur la plante, d'où l'intérêt aujourd'hui de voir cette technique peut-être se développer.
Marc Benoît est ingénieur agricole et docteur en sciences agronomiques sur la gestion territoriale des activités agricoles. Il est directeur de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique. Il est également président de l'Association française d'agronomie ou AFA, une structure créée en octobre 2008. Ce scientifique parle plutôt des drainages en raison de la diversité des situations.
Alors j'ai insisté sur les drainages parce qu'en fait il y a plein de façons de faire des drainages en France, mais aussi partout dans le monde. C'est pas la même chose de faire un drainage seulement avec des modelés de surface ou de faire un drainage avec des tuyaux enterrés. Et c'est pas la même chose quand on a des tuyaux enterrés qui sont distants de 8 mètres ou distants de 30 mètres. Donc tout cela joue beaucoup sur la circulation des eaux.
Ah oui, d'accord. Alors comment on fait ce drainage? C'est-à-dire que voilà, je peux mettre des tuyaux dans le sol avec un espacement donné, suivant mon investissement, suivant ce que je veux faire. Il y a ce que vous appelez le modelé, c'est quoi ça?
Alors les modelés de surface, c'est simplement de donner à la parcelle une forme en billon qui permet d'écouler les eaux. Alors ça fait au soleil couchant des jolis petits reliefs. Par exemple en France, on le voit très bien en ce moment dans les parcelles de prairies permanentes qui permettent d'évacuer l'eau simplement par gravité. Elles arrivent dans le petit fond, elles arrivent après au ruisseau.
C'est vrai que quand on regarde par exemple certains champs, on voit des lignes qui parcourent le champ avec des creux et des bosses, mais j'avais jamais compris que ça servait à ça.
Bah, disons qu'on se sert de ce que Newton a bien montré, la gravité nous permet d'évacuer comme ça facilement de l'eau de surface. Et l'autre point alors qui a été beaucoup travaillé par d'autres collègues agronomes, c'est aussi de prendre en charge la porosité des sols. Par exemple, il y a des techniques culturales qui rendent les sols plus poreux, soit parce qu'il y a plus de vers de terre, soit parce que les racines sont plus denses. Et là, on a en général des circulations d'eau qui sont beaucoup plus actives.
Et ça dépend de quelle plante je cultive.
Voilà. Ça dépend énormément de la plante qu'on cultive.
C'est-à-dire que si je mets du maïs ou de la betterave, c'est pas la même chose.
Oui, alors, avec une difficulté que tous les agriculteurs connaissent, c'est comme en général on fait une succession de cultures, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte les besoins des cultures qui se suivent dans le temps, pour choisir le type de drainage qui irait au mieux, sachant que une deuxième partie importante de ces drainages, c'est de faire en sorte que l'eau qui sorte des réseaux soit de meilleure qualité possible. C'est-à-dire que plus on traite, par exemple, à l'amont dans la parcelle avec des produits chimiques ou des doses importantes de nitrate, plus on risque d'émettre des eaux contenant beaucoup de produits chimiques et beaucoup de nitrate à la sortie de ces parcelles.
Benoît, vous multipliez les difficultés là. C'est-à-dire que déjà, du point de vue agronomique, ce n'est pas bon de toujours cultiver la même chose. Donc il faut que j'alterne les cultures qui n'ont pas toutes les mêmes besoins. Et il faut que je traite mon champ avec des produits que j'apporte et qui ne sont pas sans conséquences.
Ah, agriculteur est un beau métier. Enfin, si on veut avoir de la tâche, c'est un très beau métier. Et ça, c'est un des points qui est de plus en plus important à prendre en charge. C'est-à-dire qu'on a, dans le métier d'agriculteur, enfin, donc je suis agronome à l'INRA, mais quand je travaille très souvent avec des agriculteurs, ils ont bien sûr leurs propres envies privées, Donc ils veulent produire, ils veulent gagner de l'argent, ils ont des gros soucis de travail en ce moment, en termes de charge de travail. Mais d'un autre côté, c'est vrai que l'ensemble de la société et puis les petits-enfants qui vont arriver derrière nous, eh bien ils attendent que les sols soient encore de bonne qualité et que les eaux soient de bonne qualité, et si possible, qu'on diminue les gaz à effet de serre qu'on émette. Et donc toutes ces contraintes-là, l'agriculteur doit les prendre en charge, ce qui ne simplifie pas le métier, je suis d'accord.
Cela, c'est ce que les scientifiques appellent la vie de l'eau. On va tenter de résumer cette affaire avec nos mots à nous. Chaleur, évaporation et circulation des courants d'air prélèvent l'eau dans la mer et forment les précipitations au-dessus de nos têtes. Pluie, neige ou grêle, cette eau qui tombe du ciel forme des ruisseaux qui se rencontrent et forme des mares et des fleuves en surface et de l'eau dans le sol. Et par un processus tout à fait naturel, l'écoulement de cette eau la dirige vers la mer. C'est dans ce processus perpétuel que l'agriculteur doit trouver sa place, c'est-à-dire faire sa production agricole, tout en préservant la qualité de l'eau et du sol. Dans le cas du drainage, il y a un bout de chaîne, ce que les scientifiques appellent la remédiation.
Eh bien, pour parler très vite, il s'agit de grands mare à canard, voilà, que l'on creuse à la sortie des collecteurs de drainage pour permettre à l'eau d'avoir un temps de séjour suffisant dans ces mares qui, ensuite, l'eau libérée rejoint le ruisseau, mais en ayant perdu des nitrates et des pesticides dans ces zones de remédiation.
Et ces zones sont faites comment? Parce que j'ai vu tout à l'heure, vous avez monté une diapo où entre la sortie de l'eau de drainage et le cours d'eau, il y a une espèce de bassin là. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui purifie l'eau dans ce bassin?
Alors, il y a trois éléments qui jouent. Le premier élément, c'est le soleil. Les UV cassent les molécules, très efficaces, qu'on appelle la photolyse. Le deuxième événement qui joue là, c'est le fonctionnement des bactéries, qui elles-mêmes capturent et, en général, transforment ces molécules. Et le troisième élément, ce sont tous les végétaux qui vont pousser dans ces sédiments très humides et qui vont capter ces molécules pour ne pas les laisser repartir vers le ruisseau.
Ah, c'est pour ça qu'aux abords des rivières, on trouve toujours les mêmes végétaux, des roseaux. Des... Enfin, ils aiment ça, quoi.
Alors, voilà, on aime bien, enfin, on aime de plus en plus ces zones humides qui permettent de tamponner des effets négatifs de la qualité des eaux qui viennent des milieux agricoles intensifs. Mais ces zones humides sont plutôt en régression. Donc, on essaye d'en recréer pour diminuer les impacts négatifs, oui.
Pour le cas de l'élevage, vous avez parlé de prairies permanentes. Alors, c'est quoi ces prairies permanentes?
Bien, c'est ce qu'on appelle l'herbe. Donc, ce sont des surfaces de prairies qui sont toujours en couvert de végétaux permanents.
C'est-à-dire qu'on ne les laisse pas nus?
On ne les laisse pas nus, on les utilise toute l'année. Alors, soit sous forme de pâturage. Donc là, vous allez voir des clôtures le long des parcelles pour que les animaux restent bien sages. Soit sous forme de fauches pour faire les stocks en hiver. Soit même quelquefois fauché puis pâturé. Et ces prairies permanentes ont l'avantage important par rapport à la dynamique de l'eau de retenir beaucoup les eaux, ont l'avantage par rapport à la qualité des eaux, comme elles ne sont pas traitées avec aucun produit phytosanitaire, et elles ne larguent pas de pesticides. Et le troisième avantage, c'est que sur les nitrates, en général, les pertes en nitrates sous prairies permanentes sont très limitées. Le souci actuel, c'est que les prairies permanentes sont de moins en moins utilisées pour l'élevage. Et c'est bien dommage parce qu'en plus, ça fait des produits tant pour le lait, le fromage ou la viande de qualité. Et en particulier, les collègues montrent clairement qu'il y a beaucoup plus d'oméga 3 qui sont très intéressants pour le bien-être des humains dans les produits animaux issus d'animaux qui utilisent de l'herbe que dans les produits animaux qui n'utilisent pas d'herbe.
Tout à l'heure, vous avez parlé d'efficacité agronomique de ce drainage.
Alors, l'efficacité agronomique du drainage, c'est de faire le ratio entre ce qu'il est possible de produire dans une parcelle qui a été drainée par rapport à la même parcelle, même terrain, même climat, non drainé.
C'est-à-dire que vous essayez de voir le volume que j'ai produit avant drainage et le volume que j'ai produit après drainage pour établir un gain.
C'est exactement ça. Et le gain, donc... est extrêmement variable. Donc un exposé d'un collègue juste avant, donc Monsieur Duterte, montrait que ça pouvait aller en culture d'hiver jusqu'à 8 quintaux par hectare dans des sols limoneux bien hydromorphes. Mais par contre, en culture de printemps, par exemple sur le maïs, la production était que très légèrement augmentée. Donc c'est très variable aussi en fonction des cultures.
Vous êtes agronome, vous êtes cru obligé de parler des changements climatiques. Je confesse devant vous que quand on vous entend parler des changements climatiques, ça fait un peu peur.
Alors, bon, ben c'est une des vraies réflexions qu'on a engagées tous ensemble dans la communauté internationale du GIEC et d'autres communautés de recherche. On est quand même face à deux points de quasi-certitude. Le premier point, c'est que des parcelles qui ont été drainées, il serait bien d'entretenir les drainages pour qu'ils continuent à être efficaces en cas de pluie qui deviennent de plus en plus aléatoires, mais qui quelquefois continuent à être très importants. Et le deuxième point, pour nous en tant qu'agronome, qui est vraiment central, c'est de soigner l'enracinement des plantes, c'est-à-dire de faire en sorte de toujours créer un profil cultural dans lequel les racines puissent se développer au maximum. De ce point de vue-là, on aime assez bien les plantes qui sont pérennes, qui ont des racines tout le temps en place, ce qui nous évite d'avoir à jouer, de les mettre en place, et que si ça se passe pas bien, eh bien ça s'est mal passé. Ben, quand un arbre est là, il a déjà ses racines, ses fruits à soigner, on est d'accord, mais la structure de l'arbre et des racines sont déjà en place. Et donc en ce moment, on est de plus en plus attentif et on est de plus en plus intéressé par des plantes pérennes, du type des arbres, des haies, des prairies permanentes, qui tiennent mieux que d'autres aux aléas climatiques.
Oui, mais comme ça se dégrade.
Eh bien, ce sera le jeu sur lequel il va falloir qu'on joue tous et qu'on apprenne les uns les autres qui a bien réussi à s'en sortir. Parce que, quoi qu'il arrive, donc, il faut d'abord essayer le plus vite possible de diminuer nos gaz à effet de serre pour que le climat arrête et de se déréguler. Et le deuxième point derrière, donc, quand on a joué cette atténuation, eh bien, c'est d'essayer de se partager des expériences où les uns qui ont réussi expliquent le plus vite possible aux autres comment ça a bien marché.
De toute façon, on n'a pas le choix, parce que une rivière, on a beau lui donner des noms, des portions de nationalité et tout ça, une rivière ne connaît pas les frontières des États. Et les hommes sont obligés de prendre le problème ensemble pour une fois. On est obligés.
Complètement évident. Et je pense que entre la vie de l'eau, de la tête d'un bassin versant jusqu'à
à la mer,
océans, voilà, parce que c'est quand même aux océans que l'eau termine, mais avant de revenir sous forme de nuages. Et de l'autre côté, pour nous, la prise en charge de ce qui est la diminution des gaz à effet de serre, ce sont des solutions sur lesquelles tous les humains sont concernés et pas quelques-uns. Quoi.
Qu'on soit riche ou pauvre.
Bon, sachant que les riches ont tendance à émettre plus de gaz à effet de serre que les pauvres quand même.
Je vous remercie.
Merci à vous.
Nous parlions aujourd'hui du drainage agricole et des effets des bouleversements du climat avec les responsables de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture de France et des chercheurs de l'Institut national de la recherche agronomique. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Mouchinski, au micro Sayouba Traoré. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.rfi.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Toujours cette bonne nouvelle avant de se quitter. Pour écouter Radio France Internationale sur votre téléphone mobile, c'est désormais très simple. Il vous suffit de télécharger l'application RFI Pure Radio. Vous faites votre choix parmi les 14 langues et vous vous laissez guider.